Il est 18h à Kinshasa, 19h à Beni au Nord Kivu. Bienvenue à l'écoute de ce journal.
Radio Kapi.
Et tout d'abord, les titres. Le 20 mars, c'est la journée internationale de la francophonie. En RDC, le chef de l'État a présenté officiellement la candidature de Juliana Lumumba au poste de secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. D'autres détails dans ce journal. Et puis, cette avancée vers la réduction du déficit en eau potable à Kinshasa, c'est avec l'inauguration des modules 2 et 3 de l'usine de la régie des eaux Ozone en Galima. L'apport de 330 000 mètres cubes de plus par jour permettra à plus de 5 à 6 millions d'habitants supplémentaires de bénéficier de l'eau. L'invité de ce journal est l'administrateur du territoire de Fizi, au sud Kivu. Sami Badibanga évoque les conditions difficiles de 250 000 réfugiés congolais dans des camps au Burundi. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être avec nous. Le 20 mars de chaque année, le monde célèbre la Journée internationale de la francophonie. Pour marquer cette journée, le président de la République a présenté officiellement hier jeudi à la Cité de l'Union africaine la candidature de Juliana Lumumba au poste de secrétaire général de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Une désignation qui traduit, selon les organisateurs, l'ambition renouvelée de Kinshasa de peser davantage dans les instances internationales et de porter une voix africaine forte au sein de l'espace francophone. Félix Tshisekedi engage ainsi tout l'appareil diplomatique du pays derrière Juliana Lumumba. Richard Junior Kamunga, c'est quoi la francophonie et quelle est l'importance de la RDC?
La francophonie représente plus qu'un simple espace linguistique. Elle constitue un ensemble culturel, politique, économique et diplomatique regroupant des nations diverses unies par l'usage du français. Au cœur de cette dynamique mondiale, la République démocratique du Congo occupe la première place centrale avec plus de 100 millions d'habitants dont une immense majorité utilise le français comme langue d'enseignement, d'administration et de communication interethnique. La RDC est aujourd'hui le premier pays francophone du monde en nombre de francophones. Ce statut confère au pays un rôle stratégique majeur pour l'avenir de la francophonie. L'Organisation internationale de la francophonie, OIF, regroupe 88 États et gouvernements. L'usage du français connaît une croissance notable, surtout en Afrique subsaharienne, région devenue moteur de la francophonie. En tant que premier pays francophone du monde, la RDC n'est plus seulement un espace où le français est parlé, elle est devenue un acteur majeur du destin même de la francophonie. Sa démographie, sa culture, sa géographie et sa jeunesse font du Congo un pilier incontournable.
Nous reconnaissons toutes les valeurs des femmes dans la communauté islamique. Elle est le pilier du développement de la société. Déclaration de Cheikh Rajaba Hassan Mirumba, responsable de la prédication au centre islamique de la ville de Beni, à l'occasion de la clôture du mois de Ramadan ce vendredi à Beni. À cette même occasion, il a lancé un appel pressant aux jeunes encore dans la brousse afin qu'ils quittent les groupes armés et rejoignent les efforts de paix. Il est au micro de Marc Marofimbo.
La communauté islamique dans le monde entier reconnaît toutes les valeurs de la femme. Les femmes dans la communauté islamique, nous les considérons comme un pilier de développement. Si nous avons eu la grâce d'avoir la force de l'islam, c'est à travers une femme, la femme du prophète Mahomet, pour dire que chez nous, la femme est un être très important, car d'elle vient la vie et la source de tout développement. C'est pourquoi, dans notre communauté, la femme occupe toujours la première place. À l'occasion de ce mois de Ramadan, nous avons imploré la grâce de Dieu sur tous les efforts de paix fournis par nos autorités. Et nous lançons un appel vibrant aux jeunes qui peut-être ont été emportés par les difficultés de la vie et ont rejoint les groupes armés. Quitter la brousse et revenir à la raison. Rechercher la paix. Nous demandons également aux autorités de notre pays de noter que, malgré le fait que notre communauté soit souvent pointée du doigt dans la sécurité à Beni, c'est faux. Nous sommes une communauté qui prône la paix. Que ce soit dans le Coran ou dans les enseignements du prophète Mahomet, rien n'encourage le terrorisme.
Signalons que des milliers de fidèles musulmans venus de 15 mosquées que compte la ville de Beni se sont réunis au stade Kimbangu où s'est clôturée la cérémonie marquant la clôture du mois de Ramadan. Inauguration mercredi dernier à Kinshasa par le ministre des Ressources hydrauliques et de l'électricité des modules 2 et 3 du complexe industriel de traitement d'eau situé à Binza Ozone dans la commune d'Engaliema. dans le cadre du projet de développement multisectoriel et de résilience urbaine de Kinshasa, Kin et Linda. D'une capacité totale de 330 mètres cubes par jour, cette infrastructure moderne permettra d'alimenter plus de 5 à 6 millions d'habitants supplémentaires. Jude Mister Bilanda pour les détails.
Soutenu par la Banque mondiale, ces projets visent entre autres l'augmentation de la capacité de production d'eau potable. Cette montée en puissance constitue un progrès technique significatif en faveur de la régie des eaux pour la desserte en eau potable de la capitale. Les communes et quartiers bénéficiaires sont Bizaozone, Bandalungwa, Kasavubu, Ngiringiri, Bumbu, Selembao et Makala, où de nombreux ménages ont longtemps vécu sans accès régulier à l'eau potable au robinet. On écoute la joie de ces garçons. Dans notre quartier, l'eau ne coule pas des robinets. Je suis très content de l'inauguration de cette usine. Je ne veux plus me promener avec le bidon sur la tête pour aller chercher de l'eau. À travers cette inauguration, le gouvernement réaffirme sa volonté d'améliorer l'accès à l'eau potable, secteur essentiel pour la santé publique, la dignité humaine et le développement urbain. Dans son intervention, le ministre des Ressources hydrauliques et électricité a salué l'aboutissement de cet investissement structurant en soulignant son importance pour la résilience des Kinshasa et pour l'amélioration concrète des conditions de vie des populations bénéficiaires.
Et puis, les habitants du territoire de Nyunzu, en province du Tanganyika, ont bénéficié hier jeudi de 7 centres de santé grâce au projet de l'Agence coréenne de coopération internationale, COICA. Estimé à 6 millions de dollars américains et exécuté durant 2 ans par l'UNICEF, ces projets visent à réduire la morbidité et la mortalité d'au moins 35 000 enfants de moins de 5 ans dans la province du Tanganyika. Ces ouvrages ont été réceptionnés par le ministre provincial de la Santé du Tanganyika. Plus de détails avec Blaise Nongala Mayanda.
Ces programmes adoptent une approche intégrée multisectorielle combinant des interventions en santé, en nutrition, eau, hygiène, assainissement et changement des comportements sociaux. Les chefs des sections en charge de la santé à l'UNICEF précisent que ces projets visent non seulement à améliorer l'accès aux services essentiels, mais également à renforcer la résilience des communautés et à contribuer durablement à la consolidation de la paix.
Les services de santé et les services sociaux de base sont un élément catalyseur pour favoriser encore cette restauration de la paix sociale.
La chef des missions adjointe de l'ambassadeur de la Corée en RDC est convaincue que la construction de ces centres de santé prouve une collaboration diplomatique entre Kinshasa et Séoul.
Je crois que ceci représente un exemple d'une meilleure coopération entre la République démocratique du Congo et la République de Corée.
Pour sa part, les médecins chefs des zones de santé de Nyunzu, Cosmas Kongolo, remercie l'UNICEF et la COICA pour la mise en œuvre de ces structures sanitaires.
Nous remercions vivement l'UNICEF et la République du Corée du Sud par ces gestes. Vous savez, on n'avait presque rien.
La ministre provinciale de la Santé du Tanganyika souligne que ce projet vient répondre aux besoins de la population retournée et déplacée après les conflits communautaires entre peuples Twa et Bantous.
Dans la province de la Tchopo, l'agonie de la rivière Aruimi mobilise les consciences dans les territoires de Basoko. Depuis 2023, les activités d'exploitation aurifère de la société Zinc China, menées à l'aide des dragues robotisées, provoquent une pollution massive des eaux. Entre violation présumée des clauses du permis de recherche et destruction des moyens de subsistance des populations de Likombe et de Bahanga, le désastre environnemental prend une ampleur inquiétante. La mairie de Kisangani a servi de cadre mercredi dernier à une réunion élargie du Conseil urbain de sécurité. Autour du maire de la ville, des bourgmestres, des communes, des chefs de quartier et des membres de la société civile, ils se sont penchés sur 2 dossiers majeurs, à savoir la sécurité des personnes et l'assainissement de la ville. Le point avec Jacques Moukonkouli.
Selon le maire de la ville, l'objectif de cette rencontre était de passer au crible la situation sécuritaire et la problématique de l'assainissement de la ville. Pour Deli Likunde, si du point de vue de la sécurité, le tableau global est encourageant, la vigilance reste de mise. Il appelle à une collaboration plus étroite avec les forces de l'ordre.
Nous obtiendrons des informations via la population et nous sensibilisons cette population d'être vigilante, de regarder et toutes les informations qui peuvent provenir des part et d'autre, informer des services afin que nous puissions étouffer, éradiquer ces dons qui peuvent menacer.
Cette rencontre ne relève pas du hasard. Elle s'inscrit dans une dynamique nationale de changement. Selon Simon Lowawa, bourgmestre de la commune Makisso, ces échanges traduisent la mise en œuvre d'une nouvelle vision instaurée depuis juin dernier.
Nous n'avons que cette ville et nous avons tous le devoir de la protéger, de veiller les uns vis-à-vis des autres sur toute situation suspecte, informer, collaborer avec les services de sécurité.
Cependant, ce satisfait officiel est tempéré par la société civile. Elle rappelle que l'insécurité reste une réalité quotidienne dans les 67 quartiers de la ville. Elle exige que les résolutions prises soient mises en pratique afin que les Boyomé retrouvent enfin une véritable quiétude.
Au Nord Kivu, la population de Sake et des villages environnants déplore et dénonce l'insécurité grandissante ces deux derniers mois dans le groupement Kamuronza en territoire de Masisi. La cité de Sake est située à environ 30 km de Goma. Cette insécurité est caractérisée par une série de cas de pillage chaque nuit attribués à des hommes armés non autrement identifiés. Plusieurs habitants des retournés, notamment ceux des villages Kimoka et Mubambiro, ont abandonné leurs habitations pour se mettre à l'abri de cette insécurité grandissante selon les sources locales. Des détails avec vous, Nancy Atambou.
Depuis le mois de février, plusieurs maisons ont été cambriolées par des bandits armés non identifiés selon des sources locales. Dans la nuit de vendredi à samedi, nos sources citent les braquages des deux boutiques situées non loin du centre de santé Sake Afia et des deux autres au marché central de Sake. D'autres boutiques situées au niveau du péage routier Sake Kichanga ont également subi le même sort. Les quartiers ciblés par cette insécurité sont ceux de Mosquée, Kiduki, Bikali, Virunga et Ndolero, mais aussi les villages de Kimoka et Mubambiro dans le groupement de Kamuronza. Ces cambriolages qui surviennent généralement pendant la nuit inquiètent les habitants. L'identification des auteurs reste difficile dans une zone occupée par la FCM23 et où opèrent également des groupes armés Wazalendo. Selon nos sources, les victimes sont en majorité des retours. Plusieurs d'entre eux ont dû abandonner leurs habitations à cause de l'insécurité pour se réfugier vers des endroits plus sûr.
Dans la même province, à Beni, la MONUSCO, en appui au FARDC, poursuit ses opérations pour renforcer la protection des civils dans les zones sensibles au Nord Kivu et en Ituri. Entre escortes sécurisées, déploiement des bases mobiles et patrouilles conjointes, les forces onusiennes multiplient les actions sur le terrain. Le point avec les porte-parole militaires de la MONUSCO, le colonel Charles Aoudoua, au micro de Martial Papi Moukeba.
La MONUSCO, en collaboration avec le FADC, poursuit ses efforts pour assurer la protection des civils dans l'est de la RDC. Le 17 mars, en Ituri, nos éléments ont escorté en toute sécurité 9 civils, dont des femmes et des enfants, entre Bayo et Fataki. Cette intervention faisait suite à des préoccupations sécuritaires liées à des menaces de tir dans la zone. Auparavant, du 12 au 14 mars, à Malibongo, un contingent de la MONUSCO a déployé une base opérationnelle mobile afin de renforcer la présence sécuritaire et appuyer les communautés locales. Des activités civilo-militaires ont également été menées, notamment des actions de sensibilisation et une assistance humanitaire. Enfin, le 14 mars, dans le cadre de l'opération Uboja, une patrouille conjointe MONUSCO-FADC a été conduite sur l'As Oicha Mamouvé dans le Nord Kivu. L'objectif était de dissuader les groupes armés, sécuriser cet axe stratégique et renforcer la protection des civils.
Actualité internationale.
Lors d'une réunion tripartite organisée jeudi 19 mars à Cotonou, les chefs d'état-major des armées françaises, ivoiriennes et béninoises ont convenu de poursuivre leur collaboration entamée l'an dernier. Objectif, lutter contre la menace terroriste qui pèse sur le nord du Bénin et sur la Côte d'Ivoire.
L'invité.
Environ 250 000 réfugiés congolais vivent dans des camps au Burundi. La majorité se plaint des mauvaises conditions de vie. La plupart viennent du territoire de Fizi. À quand les rapatriements volontaires de ces réfugiés dans leur pays d'origine? L'administrateur du territoire de Fizi, Sami Badibanga, est notre invité. Il répond aux questions de Jean Kassami.
Bonjour, Sami Badibanga.
Bonjour, monsieur.
Quid du retour volontaire des réfugiés congolais vivant dans les camps au Burundi?
Les retours volontaires des Congolais se trouvant au Burundi et ayant fui les atrocités de M23 avec la prise de la ville d'Uvira le mardi 16 décembre 2025 est conditionnée par la tripartite englobant le gouvernement congolais, le gouvernement burundais et le partenaire ACR. Cette question est traitée au plus haut niveau et j'ose croire que Monsieur l'Excellence, le gouverneur de province Jean-Jacques Pokoussi se prononcera incessamment sur ce dossier. S'il est concerné, le réfugié congolais se trouvant au Burundi estime qu'ils sont prêts à regagner leur pays d'origine et que toutes les conditions sécuritaires sont aux garanties. Nous leur souhaitons un bon retour au bercail dans leur pays d'origine. Et les territoires de Fizi, leur territoire d'origine, est disposé à les accueillir sans en condition.
Peut-on dire aujourd'hui à ces réfugiés que les conditions d'accueil sont réunies dans leur milieu de retour?
Sur le plan sécuritaire, plusieurs cas d'assassinats ciblés sont signalés dans tous les quatre secteurs qui composent les territoires de Fizi. Les victimes sont des personnes de troisième âge soupçonnées d'être des sorcières. Les secteurs de Tanganyika battent les records avec au pli des 12 personnes tuées pour les mêmes motifs. Dans les hauts plateaux de Binembwe, les affrontements se poursuivent et nos FRDC résistent et repoussent les pro-M23, notamment le Red Tabara, Turaneo, FNL, Ngomino, aux forces coalisées du Kenya et de la Somalie. Binembwe étant le centre de tous ces affrontements, nous attendons sa reconquête par le FRDC appuyé par le Wazalendo.
Au-delà de la dégradation de l'aspect sécuritaire à Fizi, les catastrophes naturelles aussi sont légion.
Les territoires de Fizi connaissent ces derniers temps de très fortes pluies. Ces dernières sont accompagnées de vents violents et de tonnerres. Elles sont responsables de plusieurs catastrophes naturelles dont le bâtiment administratif du territoire de Fizi a été victime. La toiture du bâtiment emportée par le vent violent, ça fait pratiquement 2 semaines et demie. La crue du lac Tanganyika des rivières, le fait des brousses, l'abattage abusif des arbres, le boulement des terres dans des villages, carrières minières causant de pertes en vies humaines et de biens de valeur sont le résultat de la destruction de l'écosystème par nous et la disparition de la biodiversité, source de vie végétale. Je lance un appel à tous les habitants du territoire de Fizi de pouvoir penser à conserver la nature. Conserver la nature, c'est refuser d'abattre inutilement un arbre. Conserver la nature, c'est refuser de tuer un animal sauvage. Conserver la nature, c'est reboiser les espaces verts, c'est reboiser les écoles, les avenues, c'est reboiser les collines, reboiser notre milieu naturel. Dans nos parcelles, chaque habitant doit pouvoir planter 3 arbres, 2 arbres fruitiers et 1 arbre ombragé. Une fois que toutes ces conditions sont réunies et que ces espaces verts, les collines, les écoles, les avenues, la RN5 sont reboisées, et ces catastrophes naturelles cesseront.
Merci, Monsieur Sami Badibanga.
Je vous remercie aussi.
C'était notre invité, l'administrateur du territoire de Fizi, Sami Badibanga. Il répondait aux questions de Jean Kassami. C'est la fin de ce journal qui a été supervisé par Jude Mister Bilanda. Dieudonné Nyangasa et Jean-Claude Sela ont assuré la technique et Jean-Désiré Kanyama vous l'a présenté. Merci pour votre fidélité à Radio Okapi. Bonsoir chez vous.